Avant de lire le texte biblique que j'ai choisi de partager avec vous ce matin, je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation qui me permet de continuer mon tour des églises de notre région et de connaître le réel de l'église et ne pas être enfermé dans un bureau. En fait, vous me faites un cadeau en m'invitant, comme ça, dimanche après dimanche, je tourne dans les paroisses de la région parce que ça me permet de ne pas me sentir un apparatchik. Ça me permet de me sentir au plus proche du réel, parce que le réel, c'est vous, le réel, c'est l'Église, quand l'Évangile est proclamé. Et je suis au service de cela, à votre service, et je voulais vous saluer aussi de la part des 68 autres églises locales que nous avons dans la région et qui en ce moment même célèbrent le culte. Vos frères et vos sœurs vous saluent, et ensemble, nous essayons d'être des témoins à peu près fidèles, autant que possible. Donc merci, et donc nous allons partager un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, je lis du verset 11 jusqu'au verset 21. Nous savons donc ce que signifie reconnaître l'autorité du Seigneur, et nous cherchons à convaincre les gens. Dieu nous connaît parfaitement, et j'espère que, au fond de nous-même, de vous-même, vous nous connaissez aussi. Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre aux personnes qui tirent leur fierté des apparences extérieures et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Et si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous presse, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous, afin que tous, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes humaines. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyé par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité, alors éclaire-nous et rends-nous saints par ta vérité. Amen. Nous cherchons à convaincre les gens. Nous cherchons à persuader les gens, selon une autre traduction possible. Que faut-il penser de cette volonté de convaincre, de persuader, d'argumenter? Développer un raisonnement pour tenter de prouver qu'on a raison et que ce que nous connaissons est vrai. Si l'on s'en tient à ce registre du vrai et du faux, mis en œuvre par l'apologétique, la volonté de convaincre, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui sonne faux dans le royaume de celui qui a besoin de revendiquer, de prouver, de démontrer qu'il est dans le vrai. Comme s'il n'en était pas tout à fait certain lui-même et qu'il avait besoin de lire une confirmation dans le regard des autres. Si je réussis à te convaincre, alors je me serai prouvé que j'ai raison. N'y a-t-il pas là une sorte d'aveu de faiblesse implicite? Il y a aussi quelque chose de mortifère, c'est-à-dire qui porte la mort dans cette volonté de toujours convaincre, de toujours avoir raison. Le christianisme n'est-il rien d'autre qu'une doctrine de plus, opposable à d'autres, une marchandise comme une autre pour laquelle il conviendrait de développer l'argumentaire le plus convaincant possible pour réussir à refourguer notre camelot? De tout temps, et je cite là un dominicain qui s'appelle Dominique Collin, le christianisme a été tenté de s'imposer, de considérer ses opinions plus vraies que celles des autres, de prétendre à l'universel, tout en faisant de l'impérialisme. C'est un dominicain qui vous le dit. Bien sûr, la théologie dogmatique a toute sa place dans l'élaboration de notre foi, parce qu'elle se doit d'être dite avec des mots, des idées, des raisonnements logiques, de la rationalité pour être audible, pour sortir de l'anonymat, de l'ineffable de l'expérience personnelle. Mais il y a un hiatus, une disproportion que Paul avoue et dévoile devant nous. L'apôtre Paul dit, en effet, « Si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. » Comment voulez-vous convaincre de manière efficace quand Dieu se trouve du côté de la folie, du déraisonnable, de l'inattendu, de l'inconnu, du pas encore connu, du radicalement autre, aurait dit Karl Barth? L'humain, lui, n'a pas le choix, ne peut pas déposer son cerveau. Il n'y a pas un vestiaire à cerveau à l'entrée de ce temple. On vous a demandé de le garder avec vous, n'est-ce pas? Il a besoin, l'humain, de mots, de grammaire, de réflexion, de logique pour dire ce qui est important pour lui. Faut-il alors essayer de convaincre les autres que Dieu est du côté de l'invraisemblable, de l'impossible, de ce qui n'existe pas encore, même potentiellement, même pas en rêve, parce que tout simplement, il est devant nous, dans ce qui peut advenir, et non derrière nous, dans ce qui a déjà eu lieu? Que faire de cet écart radical? Y a-t-il des ponts possibles entre la différence infinie de Dieu, qui ne se laisse enclore dans aucune limite, dans aucun déterminisme, dans aucune rationalité, dans aucune impossibilité? Dieu est totalement souverain, disait Calvin. Et l'humain, de l'autre qui, et c'est tout à son honneur, veut saisir, choisir, décider, et pour cela cherche toujours à comprendre, pour essayer de penser par lui-même, poussé par sa volonté de vivre en homme libre, en quelque sorte. Pour tenter de résoudre ce souci, le christianisme a traditionnellement emprunté deux chemins qui me semblent aussi erratiques l'un que l'autre. Les uns ont cherché à résoudre l'impensable et l'incroyable en le solidifiant, j'allais dire en le pétrifiant, dans une croyance venue se substituer à une foi vivante. Un dogme à avaler tout cru par la vertu d'un sacrifice intellectuel. Et c'est ainsi que, pêle-mêle, la résurrection des morts, la virginité de Marie, l'eau changée en vin, la Trinité, l'inspiration des Écritures, etc., etc., sont devenus, voyez-vous, des chapitres d'un catéchisme qu'il conviendrait d'accepter sans trop poser de questions si l'on veut appartenir au clan et prendre sa carte du parti. Ce que je crois aller le demander à Rome, par ici, dogme de l'inhérence des Écritures ou théologie de la gloire et de la toute-puissance par là. La croyance, voyez-vous, les amis, transforme une opinion en un pseudo-savoir qui, jusqu'à preuve du contraire, s'affiche comme une certitude inébranlable. Mais pour celles et ceux qui refusent ce sacrifice intellectuel, tout cela tombe dans le trou noir de l'insignifiance, de l'indifférence qui gagne la plupart de nos contemporains qui, décidément, n'arrivent plus à s'intéresser à ces enjeux-là. Tout ça est bien futile, tout cela disparaît. Et ils s'abstiennent en votant par leurs pieds, ils ne viennent plus. L'autre chemin emprunté par le christianisme pour tenter de résoudre cette aporie consiste à réduire la fracture par un discours théologique qui rejette du côté de l'obscurantisme archaïque tout ce qui excède notre capacité de raisonnement et de connaissance dite scientifique. Tout ce que je ne suis pas capable de comprendre n'existe pas ou alors est considéré comme un archaïsme à rejeter. Cela concentre l'agir chrétien autour des valeurs dites chrétiennes et il faudra me prouver qu'elles sont chrétiennes. La liberté, la paix, la démocratie, la non-discrimination, la tolérance, le bonheur, en transformant des processus vivants en des concepts abstraits, fumeux, voire verbeux. Je continue de citer Dominique Collin. Le projet de la modernité philosophique et scientifique fut aussi d'avoir raison de la foi, de faire rendre raison à la folie de la foi. Faire rendre raison comme on fait rendre gorge, vous voyez. De ce côté-là du christianisme, tout ce qui n'est pas compréhensible et rationnel se retrouve dompté, arraisonné, à coup d'explications spécialisées, qui historico-critiques, qui sociologiques, qui psychanalytiques, que sais-je encore, toutes plus savantes les unes que les autres, et tant pis pour celles et ceux qui n'ont pas l'heure de maîtriser ces techniques de spécialistes. Sommes-nous prisonniers de ce dilemme impossible à choisir entre gober une dogmatique indigeste ou réduire l'évangile à un humanisme conformiste? Sommes-nous paralysés dans les raies, pris entre un conservatisme qui sait qu'il croit et un progressisme qui croit qu'il sait? Justement, l'évangile n'est-il pas cette parole qui rend possible ce qui nous paraît de prime abord invraisemblable et impossible, le don d'exister, tout simplement. Penser à notre existence en soi, improbable et impossible, et pourtant là. Pour reprendre encore une dernière fois les mots de Dominique Collin. Toute la vie de l'apôtre Paul paraît se rassembler dans cette vocation à l'impossible, imaginer des ponts pour tenter de réconcilier l'irréconciliable, inventer de nouveaux chemins pour réunir ce qui ne fonctionne pas ensemble, la folie de Dieu et la sagesse des hommes. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Ainsi, Paul se considère comme un ambassadeur pour le Christ, pour mener à bien cette mission de réconciliation. Car l'amour du Christ nous presse, dit-il. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici, chers amis, une vérité qui se dévoile presque comme un aveu d'impuissance pour nous convaincre, pour nous persuader. Paul ne dispose d'aucun autre moyen que la supplique. Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier. Ne résistez pas quand l'amour du Christ vous presse et vous remue. Aucun argument, aucune démonstration ne trouve ici sa place. De toute façon, que voudriez-vous démontrer à des morts ? Nous avons discerné ceci, dit Paul. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il n'y a rien à démontrer à des morts. Il ne reste à Paul aucune autre possibilité que la supplique. Arrêtez de vouloir résister. Laissez-vous faire. Laissez-vous aimer. Il n'y a pas d'autre moyen. L'amour est le seul outil de l'évangélisation, le seul qui soit au service de la mission de Dieu et de l'œuvre de l'Église. Alors certes, au cours de l'histoire tortueuse du christianisme, la peur, la contrainte, la séduction, le calcul d'intérêt, le chantage, l'argumentation, la réflexion philosophique, la science, la sagesse ont tous et toutes été utilisés et le sont toujours pour tenter le forcement des consciences, pour essayer encore et toujours de convaincre et de persuader en forçant le passage. Mais de fait, ces moyens ne portent que des fruits pourris. Ce sont des œuvres des morts pour des morts. Seul l'amour nous presse. Et seul l'amour est en capacité de créer du neuf, de faire de nous des créatures nouvelles, dit Paul. Si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Et comment on ne peut forcer personne à se laisser aimer ? Il ne le reste à l'ambassadeur, pressé par l'amour du Christ, que la supplique, la proposition insistante, persistante, persévérante, qui encore et encore revient à la charge, confiant dans la fragile puissance de cet amour qui jamais ne contraint. Parabole du cantique des cantiques, quand la Sulamite s'inquiète de ne jamais retrouver celui que son cœur aime. La supplique, c'est l'humble posture de celui qui a renoncé volontairement à toute technique de marketing, toute tentative de séduction, toute velléité d'efficacité dans la persuasion pour se livrer à genoux entre les mains d'une promesse qui ne vit que d'être crue. Voyez-vous comme pour le lavement des pieds, un des seuls gestes que Jésus demande de refaire, sans beaucoup de succès, il faut bien l'avouer, d'en renouveler l'expérience, et certainement pas de le transformer en rite qu'on ferait une fois par an. Hein. Il faut se mettre à genoux devant celui que l'on veut convaincre. La seule place de l'ambassadeur n'est pas celle de surplomb, comme la mienne en ce moment, mais celle de celui qui sait que le premier venu est plus grand que lui, comme dit l'évangile de Matthieu au chapitre 20. C'est exactement cette posture servante à genoux que l'Église a été contrainte d'adopter pendant toute la crise du Covid, pendant toute la crise sanitaire, devant l'obligation qui lui fut faite de renoncer à faire venir les gens sur son terrain, dans ses églises, dans ces lieux de culte. Elle s'est trouvée dans l'obligation de renoncer à la posture de surplomb qui est la sienne habituellement quand elle parle depuis la chair. Internet est devenu le lieu d'une parole humble, simplement proposée, déposée là, comme ça, au pied de celui qui veut bien la ramasser, sans possibilité de persuader, de convaincre, parce que celui qui est sur Internet peut cliquer immédiatement et sortir sans autre forme de procès, sans autre force que la fragilité d'une parole nue, humble supplique, sans aucun pouvoir. Et pourtant, quelle force constatée, n'est-ce pas ? Quelle puissance révélée, quelle fécondité à ces paroles simplement jetées à la surface du web comme d'autres jettent leur pain à la surface des eaux, comme dit l'Ecclésiaste. Jamais autant de personnes ne sont venues assoiffées boire à cette eau jaillissante d'une vie vivante. Cela devrait nous interroger, n'est-ce pas ? C'est, je crois, cette attitude de supplique, la seule attitude possible face aux belligérants qui mettent le monde à feu et à sang. La supplique n'est pas impuissante, elle est persévérante, comme la pauvre veuve qui vient casser la tête du juge inique pour réclamer son droit à la justice. C'est la seule arme à notre portée pour changer le cœur de nos ennemis, les transformer de l'intérieur, en créant en eux-mêmes la crise de conscience qui leur fera arrêter le combat. C'est l'arme d'Abraham qui s'interpose entre Dieu et Sodome pour intercéder pour ses habitants. C'est l'arme de Martin Luther King face aux discriminations raciales. C'est l'arme de Nelson Mandela et de Desmond Tutu pour mettre fin au régime d'apartheid. Puissions-nous continuer à vivre de cette simple supplique ? Puissions-nous continuer à vivre de ce renoncement à la force qui contraint ? Puissions-nous continuer à faire confiance à celui qui nous presse d'aimer et de nous laisser aimer ? À mon tour, mes frères, mes sœurs, je ne peux ni ne veux rien d'autre devant vous, que me mettre à genoux pour vous supplier à mon tour. Au nom du Christ, nous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen.